Je vous invite à prier aussi. Seigneur, c'est avec crainte et tremblement, Seigneur, que je me tiens devant ton assemblée, Seigneur, parce que si nous sommes ici, c'est pour écouter ta parole, c'est pour écouter ce qu'elle veut encore nous dire aujourd'hui. Et nous croyons que ta parole parle encore aujourd'hui. Et nous croyons qu'elle est là pour nous transformer. On a été transformé le jour où on t'a rencontré, mais tu veux continuer encore de nous transformer à ta ressemblance, Seigneur. Seigneur, je te prie vraiment que ton Saint-Esprit puisse encore nous interpeller, Seigneur, s'il y a des choses dans notre vie par lesquelles, Seigneur, nous devons, dans lesquelles nous devons te les remettre, Seigneur. Te prions tout ça au nom de Jésus. Amen. Bonjour à tous. C'est un honneur, en tout cas pour moi, d'apporter ce message aujourd'hui. Et donc, comme vous l'avez vu, ça va parler de Jacques 3, 13 à 18. Sagesse humaine ou sagesse de Dieu. Je ne sais pas si vous connaissez ces deux personnages que vous avez derrière moi. Et en fait, il se trouve que souvent, quand on a des célébrités, des hommes politiques ou voilà, des personnes qui ont une certaine puissance, on va dire, aux yeux du monde, quand ces personnes-là font des choses qui ne sont pas morales ou en tout cas qui ne sont pas normales, on est choqué. Et on se dit, bah, c'est des hypocrites. Ils sont incohérents. J'ai mis hashtag incohérence, c'est pour rester un peu dans le mouvement d'aujourd'hui, mais c'est juste pour dire que on est choqué et on se dit, bah, c'est pas normal, cet homme politique, il devrait pas être comme ça. Alors, je sais pas si vous reconnaissez à gauche qui est cet homme politique. Bill Clinton. Donc, vous savez que Bill Clinton était président des États-Unis et qu'il y a eu une affaire qui s'appelait l'affaire Michael Lewinsky. Peut-être pour ceux qui étaient nés avant 88, vous savez, les autres, je sais pas. Voilà. Mais en tout cas, ça, c'est une affaire qui a vraiment ému l'Amérique. Vraiment, à l'époque, c'était vraiment choquant, quoi. Et plus récemment, Nicolas Sarkozy, que vous avez reconnu, hein, je ne présente pas, qui était notre président, et il a choqué aussi son monde, nous, quand il est allé au Salon de l'Agriculture. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. En gros, il a dit, est-ce que, s'il te plaît, tu peux t'en aller, espèce de un peu idiot? Mais en plus, voilà. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose. Non, ça ne vous dit rien ? Si, ok, voilà. Je vais pas me permettre de dire des choses qu'il a dites. La semaine dernière, on a eu Pasteur Nguyen qui nous a fait un message sur Jacques 3, le début de Jacques 3, versets 1 à 12. On avait vu les dangers de la langue. Et on avait vu aussi que d'un figuier, il ne peut pas sortir des olives, ce n'est pas normal en fait. On a vu aussi que d'une source d'eau douce, pas sortir de l'eau qui soit amère, c'est incohérent. Mais pourtant, est-ce que c'est des choses qui peuvent nous arriver à nous aujourd'hui? De prononcer des prières de bénédiction à Dieu, Seigneur, Seigneur, merci parce que tu m'as fait le matin, et après dans la journée d'être un peu impatient, un peu, voilà, toutes ces choses, un peu en colère, ça arrive qu'à moi, oui, ça arrive qu'à moi, il n'y a pas de souci. Eh bien oui, tout comme ces hommes politiques, en fait, chacun d'entre nous, ça nous arrive encore de tomber. Et des fois, on devient comme eux, en fait, incohérent et peut-être même hypocrite pour certains d'entre nous. Et c'est un peu comme si Jacques, il nous dit, il ne faut pas. Il dit, c'est pas normal. Un figuier, ça donne pas des oliviers. Une source d'eau douce ne donne pas de l'eau amère. Il dit, c'est pas normal, il ne faut pas. Mais quand on arrive à la fin du verset 12, c'est un peu comme si on se disait, ok, Jacques, merci, tu nous laisses dans le pétrin, et suite la semaine prochaine. Et en fait, on va voir que si on agit de cette manière, en fait, si on dit des choses mauvaises alors qu'on n'est pas censé les dire parce que on est rempli du Saint-Esprit en nous, c'est dû au fait que peut-être, dans notre vie ou en ce moment, on est en train de laisser un peu plus de place au diable, laisser un peu plus de place à la tentation dans notre vie. Et c'est ce que j'appelle la sagesse humaine, si tu peux passer. La sagesse humaine, qui est appelée aussi dans le texte qu'on vient de lire, sagesse du diable en fait. Sagesse humaine, sagesse qui vient du diable. Et si on parle du diable, de Satan, on sait que c'est un rival de Dieu, on sait qu'il était jaloux de Dieu, qui voulait être un peu Dieu à la place de Dieu, un peu comme Is No Good. Je ne sais pas si vous connaissez Is No Good, qui veut devenir calife à la place du calife. C'est super rigolo, mais en fait, c'est pas tellement rigolo parce que bah, Satan, il a été puni à cause de ça. Il a été jeté, précipité en enfer. Et c'est aussi le père du mensonge. Donc Satan était jaloux. Satan est toujours jaloux. Satan était le rival de Dieu. Satan est dans le mensonge. Et c'est ce qu'on a lu dans Jacques 3, c'est que la sagesse des hommes nous pousse à être dans la rivalité, nous pousse à être jaloux, nous pousse à être dans le mensonge. Et c'est un peu ce que... Et la conséquence derrière tout ça, c'est qu'on va créer du désordre, c'est qu'on va avoir des pratiques mauvaises, qu'on va avoir des paroles de malédiction, des calomnies par exemple. Ça peut être des plaintes, ça peut être des médisances. Ah, il faut que je te raconte quelque chose. Oh, tu sais, machin. Peut-être que vous allez dire quelque chose qui est vrai, mais est-ce que ça vaut vraiment la peine de le dire? Peut-être que non. On va retourner un peu en arrière. Et avant de connaître Dieu, avant ceux qui, en tout cas, ceux qui sont convertis, baptisés, remplis du Saint-Esprit, ceux qui ont reçu le Seigneur, avant de connaître Dieu, nous étions comme ça, en fait. Éphésiens 2 dit que nous étions des enfants de colère. Nous étions comme des enfants du monde, en fait même du diable, Paul dit. Et finalement, c'était un peu normal d'être hypocrite. Alors des fois, on se dit non, c'est pas bien, mais on le faisait, c'était normal pour nous. Mais à partir du moment où Jésus est rentré dans notre vie, c'est ce qu'on appelle la nouvelle naissance. On est transformé. Ça change du tout au tout. Et Dieu, à ce moment-là, accomplit cette prophétie de Jérémie qui dit qu'il remplace nos cœurs de pierre par des cœurs de chair. Et nous recevons le Saint-Esprit. Et nous sommes appelés à marcher par cet Esprit. Malheureusement, tant qu'on vit sur cette terre, on est encore dans ce corps. Et ce corps qui, parfois, nous pousse en fait à pécher encore. C'est ce qu'on appelle notre vieille nature ou notre vieil homme. Et ça reprend un peu le dessus. Pareil, peut-être ça ne vous arrive pas, mais en tout cas, moi, ça m'arrive. Et c'est peut-être parce que ça m'arrivait que je suis peut-être le mieux placé pour en parler. Ça m'est tellement arrivé de bénir Dieu dans ma journée et ensuite de perdre patience, de m'énerver ou même parfois de dire des paroles blessantes. Et malheureusement, souvent, quand on est comme ça, c'est des gens qui sont le plus proches de nous qui en souffrent. Et bah, pour moi, pas de bol, bah, c'est ma femme qui en souffre le plus quand j'agis comme ça de manière inconsistante. Mais parfois, c'est un peu plus sournois. Peut-être que parfois, on va parler à quelqu'un des problèmes. Je peux par exemple parler de quelqu'un. Donc, imaginons, je vais voir Samuel et je te parle de quelqu'un, de problèmes qu'il a. Mais en même temps, je vais dire, ouais, mais tu sais, en plus, il lui arrive ça, mais je suis sûr, en fait, peut-être qu'il le mérite bien, parce que, voilà. Et en fait, finalement, c'est pas du tout ce que je voulais faire à la base, mais de manière un peu sournoise, insidieuse, bah, je vais commencer à dire des mauvaises choses, et c'est notre vieil homme, en fait. Paul dit dans Romains 7, le mal que je ne veux pas faire, je le fais, et le bien que je veux faire, je ne le fais pas. Un autre exemple, ça peut être, par exemple, je vais parler d'un sujet de prière concernant quelqu'un qui m'a peut-être blessé dans ma vie, et en fait, je vais commencer à le critiquer. Alors qu'en fait, non, je voulais juste prier pour que, voilà, qu'on me libère par rapport à ça, et en fait, non, je commence à rentrer dedans. Ben, pareil, on rentre dans le jeu du diable, en fait, on rentre dans la division, et c'est pas du tout ce à quoi on est appelé en tant que chrétien. Et ces exemples, ben, c'est des choses qui me sont arrivées à moi personnellement, et encore aujourd'hui, je demande vraiment pardon à Dieu avec, ben, voilà, j'ai envie vraiment de me tenir devant vous avec un cœur qui soit humble, parce que Dieu, il est tellement saint, et moi, je suis tellement encore loin du compte. Mais la bonne nouvelle par rapport à cette sagesse humaine, c'est que Jacques ne nous laisse pas dans ce pétrin. Parce que, en fait, le verset 1 à 12 qu'on a eu la semaine dernière avec Pasteur Nguyen, ils sont complètement liés, en tout cas, c'est ce que je crois, au verset 13 à 18 d'aujourd'hui. Pourquoi ? Eh bien, on va regarder. Si je suis encore médisant, pourquoi suis-je encore, parlons, médisant alors que je devrais être saint ? Bah, peut-être que c'est parce que je n'ai pas laissé la place au Saint-Esprit. En tout cas, je ne vais pas laisser la place qu'il fallait. Ou peut-être j'ai cherché ma propre gloire ou peut-être j'ai laissé ma chair prendre la place de Dieu. Mais alors, la question d'aujourd'hui que j'aimerais nous poser, c'est qu'est-ce qu'on devrait faire ? Qu'est-ce qu'on doit faire pour être cohérent ? Pour pas être incohérent, mais pour être cohérent et pour avoir finalement une langue qui va vraiment que bénir notre prochain. Je sais pas si vous avez vu le film qui s'appelle Self Control, avec Jack Nicholson et Adam Sandler, des années 2001-2002. Non, c'est pas un super film, mais il est assez marrant. Et en fait, Jack Nicholson, c'est le psy. En fait, il joue le rôle d'un psy. Et Adam Sandler, c'est son patient, on va dire, qui a des excès de colère, en fait. Donc, il s'énerve facilement. Puis Jack Nicholson lui dit, bon, écoute, tu vois, il y a deux façons de gérer ta colère. La première, eh bien, c'est un peu faire un peu comme le client qui est au supermarché. Il rencontre la caissière et puis il voit que la caissière va pas assez vite et puis il commence à engueuler la caissière. En fait, dès qu'il y a quelque chose qui se passe dans sa vie, il commence à crier sur la personne en face. Voilà. Ça, c'est la première façon. La deuxième façon, c'est tu es la caissière, tu as encaissé tellement de paroles méchantes, on va dire, que à la fin tu t'en peux plus, tu prends un fusil et voilà. Ça, c'est la deuxième solution. Et troisième, et en fait non, en fait aucune de ces deux solutions n'est la solution biblique, parce que en fait, je crois vraiment que Jacques, ce qu'il essaie de nous dire, c'est que, ok, on n'est pas censé dire des paroles mauvaises quand on est vraiment dans le Seigneur, mais comment on fait pour dire que des paroles qui soient bonnes, des paroles de bénédiction? Eh bien, c'est le thème d'aujourd'hui en fait, c'est en étant conduit par la sagesse de Dieu. Et c'est vraiment lié. Et c'est là où on se dit, ok, merci Jacques, tu ne nous as pas laissé dans le pétrin dans lequel on était, et merci, maintenant on comprend que c'est avec la sagesse de Dieu que c'est possible de prononcer des paroles de bénédiction uniquement. Tu peux passer, Denis. Voilà. Donc si on part en fait du point gris, demeurer en Dieu, c'est, en fait c'est en demeurant en Dieu, c'est-à-dire dans sa parole, dans la lecture de sa parole, dans la prière tous les jours, dans le fait de témoigner à son prochain. Pourquoi je parle du témoignage ? Parce qu'en fait, à chaque fois qu'on témoigne de notre foi à quelqu'un, qu'il soit favorable ou non favorable, on ressort toujours encouragé. Et en plus, quand on témoigne, on se doit un peu d'être cohérent. On ne peut pas dire, tu sais, si tu crois, il va se passer ça, ça et ça, alors que moi-même, je ne le vis pas du tout. Là, on serait vraiment, vraiment incohérent. Donc, j'ai vraiment la foi que le témoignage nous aide aussi à garder cette cohérence. Cette sagesse de Dieu, 1 Corinthiens 1 et 1 Corinthiens 2 nous dit que c'est Jésus, que c'est une folie aux yeux des hommes et qu'elle est donnée par le Saint-Esprit. Donc, c'est le cercle bleu. Et cette sagesse de Dieu va nous pousser à avoir des bons comportements, c'est-à-dire d'avoir des œuvres, ce qu'on a vu dans Jacques 3, hein, des œuvres empreintes de douceur, qui soient des empreintes de sagesse. Et ensuite, en jaune, le cercle, les bénédictions, ça va provoquer des bénédictions dans nos pensées, dans nos paroles, et c'est normal à ce moment-là de bénir les autres parce que on a reçu cette sagesse de Dieu. Et ensuite, ça va provoquer en nous de la joie et de la reconnaissance envers Dieu. Et ça fait comme un cercle vertueux. Parce que je suis reconnaissant envers Dieu, j'ai envie d'apprendre encore à mieux connaître Dieu pour pouvoir demeurer en lui, recevoir sa sagesse. Voilà. Et pour terminer, vas-y. On va regarder par rapport à ce passage de Jacques 3. En fait, les qualités du royaume de Dieu, ces qualités qui sont que cette sagesse, elle est pure, elle est porteuse de paix, elle est douce et conciliante, elle est pleine de compassion, elle est pleine de bons fruits et elle est sans parti pris, sans hypocrisie. Par rapport à la pureté, en fait, ce qu'on remarque aussi, c'est que quand on regarde ce schéma, on pourrait remplacer la sagesse par Jésus. Jésus était pur, Jésus était rempli de paix, de compassion, Jésus était sans parti pris, Jésus était sans hypocrisie. Donc en fait, pour finalement avoir cette sagesse qui soit comme ça, regardons à Jésus en fait. Ça a l'air simple comme ça, mais on va regarder un peu plus en détail. Jésus, était pur. Et Jésus nous rend pur. Pourtant, ça arrive qu'on pêche, ça arrive qu'on tombe. Mais on a une parole qui nous dit dans 1 Jean 1, chapitre 1, verset 9, « Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous pardonner et pour nous purifier de toute iniquité. » Malheureusement, ça nous arrive encore de tomber, même si on connaît ce verset. Et ça arrive même au point où on commence à culpabiliser. Peut-être, moi ça m'est arrivé plusieurs fois où je tombais et je me disais, mais ok, je récite ce verset, mais je suis bloqué. Et en fait, il y a deux versets en fait qui font qu'on se rend compte que ces pensées qui nous rendent coupables d'accusations, ça, déjà ça vient pas de Dieu, ça vient de notre propre cœur. Et on peut se rendre compte que déjà d'une, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus, Romains 8, verset 1, et 1 Jean 3, verset 20, nous dit que si notre cœur nous condamne, Dieu est plus grand que notre cœur. Il connaît tout. Donc tout est pur pour ceux qui sont purs. Et on voit aussi cette pureté, c'est vraiment la base de tout, parce que il n'y a que Jésus qui nous rend purs, en fait. C'est par son sang, par le sang de sa mort à la croix, que nous sommes purifiés de nos péchés. Et alors on peut dire avec Jésus, comme dans les béatitudes, heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Deuxième chose, la sagesse est porteuse de paix. Alors Jésus, il est aussi appelé prince de paix. Jésus a apporté la paix sur trois niveaux. D'abord, entre Dieu et nous, en faisant la paix, en donnant sa vie en sacrifice pour nous, pour qu'on ait de nouveau cette relation avec Dieu, mais également pour qu'on ait la paix entre nous, entre les hommes, et qu'on puisse aussi, du coup, avoir la paix dans nos paroles. Et moi, c'est quelque chose qui me tient énormément à cœur parce que, comme vous le savez, il y a des fois où ça m'arrive de faire preuve de maladresse, mais à chaque fois que je sais que j'ai blessé quelqu'un, à chaque fois que je sais que, voilà, il y a des choses que... Dès que j'apprends en fait que quelqu'un est blessé, je me dis, oh ouais, je suis désolé, et je vais voir la personne, en fait. Voilà. Moi, c'est un truc où... J'ai peut-être pas mal de défauts, mais en tout cas, je sais que je peux pas me garder pour moi à dire je m'en fiche et je laisse la situation telle qu'elle est. Et ça, je pense, c'est pas vraiment moi finalement. C'est le Saint-Esprit qui agit en moi. C'est ok, c'est bien. Tu vas voilà. Et dès que je sais, c'est quelque chose que je m'efforce de faire. Donc Jésus a apporté la paix entre Dieu et nous, entre nous et nous, mais il a aussi apporté la paix dans notre cœur. Et ça, c'est peut-être un passage que on oublie, mais Jean 14, verset 27 nous dit « Jésus nous donne sa paix et nous exhorte à ne pas avoir le cœur troublé et à ne pas nous inquiéter. » Et cette paix, on se doit en tant que chrétien de la partager avec les gens autour de nous. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils sont appelés fils de Dieu. Troisièmement, Cette sagesse, elle est aussi douce et conciliante. Alors Jésus était doux et humble de cœur, on le sait d'après l'Évangile. Et je crois vraiment que cette douceur, ça allait dans le fait d'être conciliant, le fait qu'il soit vraiment dans une bonne entente, une bonne communion fraternelle. Et je crois aussi que c'est quelque chose à laquelle on est appelé, de faire preuve de douceur. Pas chercher toujours notre propre intérêt, mais vraiment chercher la douceur avant tout. Heureux ceux qui sont doux, car ils hériteront la terre. Quatrième point, cette sagesse, elle est pleine de compassion. Je pense que Jésus, c'était la personne qui était la plus remplie de compassion dans ce monde. Jésus était rempli de compassion pour la foule, pour les gens. Il a fait des miracles, il a fait des guérisons. Il a pardonné leurs péchés, il les a bénis. Et Hébreux 4, versets 14 à 16, Jésus a été tenté comme nous, et du coup, il peut compatir à nos faiblesses. Ce n'est pas quelqu'un qui a vécu une vie sur cette terre et il s'en est allé et point. Non, il a compati, il sait ce que c'est de souffrir, il a été abandonné, il sait ce que c'est, et c'est parce qu'il sait ce que c'est qu'il peut nous comprendre et qu'il peut nous encourager par son Saint-Esprit en nous. Donc, ayons aussi ce regard de compassion vers notre prochain. Et parfois, c'est vrai, on a du mal à être rempli de compassion et Avec Tatiana, on a un mystère un peu d'accueil, d'hospitalité dans notre maison. Et nous, on aime vraiment recevoir les gens, que ce soit pour manger ou des fois pour les loger quelques temps. Et peut-être vous connaissez l'histoire, mais on nous a appelé une fois, on nous a dit « Bon, bah, est-ce que tu peux loger quelqu'un pendant le temps qu'elle trouve un appartement ?» On s'est dit « Bah, ça va, c'est une ou deux semaines le temps qu'elle trouve. » En fait, ça a duré 4 mois. Mais merci Seigneur, cette fille, elle s'appelle Vanessa et en fait, elle a rencontré le Seigneur. Elle s'est faite baptiser, donc elle avait de notre église. Mais ouais, je pense que vraiment c'est la compassion que Dieu nous a donnée aussi pour elle, quoi. Donc, ouais. Ensuite, la sagesse, elle est pleine de bons fruits. Et Jean 15, verset 5 nous dit que Jésus est le cep, nous sommes les sarments. Donc, si Jésus est le cep, Jésus, faut qu'on demeure attaché à ce cep, parce que nous, en tant que branche, en tant que sarment, alors à ce moment-là, si on reste attaché à ce tronc principal qui est Jésus, alors on pourra porter du fruit. Et c'est quoi ce fruit? C'est Galates 5, verset 22, l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. C'est pas un fruit parmi tout cela, et ouais, moi l'amour j'aime bien, la patience c'est pas trop mon truc, non, c'est vraiment tous les aspects de ce fruit. Alors ça arrive parfois qu'on soit moins patient que dans l'amour, mais je crois vraiment, j'ai l'intime conviction qu'on est appelé à avoir toutes ces choses en nous. Et enfin, dernier point, la sagesse est sans parti pris et sans hypocrisie. Je ne sais pas si vous vous souvenez du prédicateur Pierre Bolduc qui est venu il y a quelques semaines, il avait prêché sur le favoritisme. Et il avait dit que si dans une chaîne, alors je n'ai pas de chaîne sur moi là, on enlève un maillon, la chaîne ne sert plus à rien en fait. Elle ne peut plus se fermer, elle ne sert plus à rien. Et il parlait du fait que cette chaîne, c'était le favoritisme. Et la sagesse de Dieu, Jésus lui-même, la sagesse de Dieu est sans duplicité. Alors, dans d'autres versions, on a, au lieu de sans parti pris, c'est sans duplicité. C'est-à-dire de ne pas dire d'un côté je suis comme ça et d'autre côté je suis d'un. Voilà, c'est pas porter des masques finalement. Et c'est aussi ne pas être hypocrite, donc sans hypocrisie. C'est-à-dire le fait de dire quelque chose, de faire le contraire. C'est ce que faisaient les pharisiens à l'époque de Jésus. Et je crois vraiment aussi, on voit aussi dans la Bible que Jésus était sans parti pris. Quand on voit dans Marc chapitre 10, on a Jacques et Jean qui vont voir Jésus. Il fait, est-ce que tu peux faire en sorte qu'on soit assis à ta gauche et moi assis à ta droite? Et comme ça, quand tu régneras, parce qu'eux, ils pensaient à un royaume terrestre. Donc, ils disaient, comme ça, on va régner avec toi. Et en fait, Jésus, il fait, mais c'est pas du tout ce qui va se passer. Parce que déjà, eux, ils pensaient à un royaume terrestre. Jésus, il pensait à un royaume céleste. Donc, déjà, les gars, vous avez rien compris. Et en plus, il a annoncé un verset qui vraiment, moi, me touche. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Si quelqu'un veut être grand parmi vous, qu'il soit votre serviteur. Et là, le plus important pour Jésus, c'était pas forcément de prendre position pour dire, moi, je suis d'accord avec vous, pas d'accord avec vous, mais c'était vraiment de montrer qu'avant tout, il fallait avoir un cœur de serviteur. Et je pense qu'en tant qu'Église aussi, c'est ce pourquoi on fait le service, en fait. Pourquoi est-ce qu'on sert à l'Église? C'est parce qu'on a un cœur de serviteur. Parce qu'on a envie vraiment de bénir les autres. On a envie de servir le Seigneur. Et parce qu'on a cet esprit de service en nous. Donc Jésus, finalement, c'était la personne la plus cohérente, ou c'est toujours la personne la plus cohérente, parce qu'il dit ce qu'il fait, et il fait ce qu'il dit. Donc, pour conclure, dans le royaume de Dieu, l'Église, elle est appelée à être cohérente, comme on vient le voir. Et peut-être aujourd'hui, on pourrait faire le test de la sagesse. C'est se poser la question, est-ce que ça m'arrive encore en ce moment d'être jaloux? Est-ce que ça m'arrive encore aujourd'hui de me comparer aux autres, d'envier quelqu'un, d'être orgueilleux? Est-ce que ça m'arrive aussi d'être fier de ce que je possède? Est-ce que ça m'arrive pas forcément de mentir, même si ça peut arriver, mais de porter un masque. Peut-être je vais au travail, personne ne sait que je suis chrétien. Voilà. Et si c'est le cas, si c'est le cas, peut-être que mon frère, ma sœur, tu manques de sagesse, ou moi je manque de sagesse aussi. Et dans ce cas-là, on peut faire 3 choses. La première chose qu'on peut faire, c'est déjà de demander à Dieu sa sagesse. Comment la demander? Jacques 1, verset 5 nous dit que si l'un de vous manque de sagesse, qu'il en demande à Dieu, qui donne à tous simplement et sans faire de reproche, et elle lui sera donnée. On a aussi Hébreux 11, verset 6, c'est que, qui dit que c'est par la foi aussi qu'il faut demander, parce que si on demande sans la foi, ben on ne recevra pas forcément ce qu'on va demander. Or, sans la foi, il est impossible d'être agréable à Dieu, car il faut que celui qui s'approche de lui croit que Dieu existe et qu'il récompense ceux qui le cherchent. Si on manque de sagesse, la demander à Dieu avec foi. Deuxième chose, c'est aussi avoir de la redevabilité entre frères et sœurs. C'est-à-dire, ben, ah ouais, écoute, frère, je lutte avec ça, est-ce que tu peux prier pour moi? C'est pas garder pour soi ses propres péchés, mais c'est vraiment de partager. Et aussi de prier les uns pour les autres, parce que ben, dans Galates 6, verset 2, nous dit « Portez les fardeaux les uns des autres ». La vie chrétienne, c'est pas tout seul, c'est moi avec les autres, c'est les autres avec moi. Et enfin, troisième chose qu'on peut faire, après avoir demandé à Dieu la sagesse, après être redevable envers les frères et sœurs, la troisième chose qu'on peut faire, c'est demeurer en Jésus, demeurer en Dieu. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la prière. C'est là qu'on voit que c'est important, la prière. C'est là qu'on voit aussi qu'il faut lire la parole et aussi le témoignage. Quand on témoigne, ça nous aide aussi à être cohérents, comme je l'ai dit tout à l'heure. Et pour terminer, vraiment, je vous propose de lire ensemble Proverbes 4, versets 1 à 6. Écoutez, mes fils, l'instruction d'un père, et soyez attentifs pour connaître l'intelligence, car je vous transmets un bon savoir. Ne rejetez pas mon enseignement. J'étais un fils pour mon père, un fils tendre et unique aux yeux de ma mère. Il m'enseignait alors et me disait, que ton cœur retienne mes paroles, obéis à mes commandements et tu vivras. Acquiers la sagesse, acquiers l'intelligence. N'oublie pas les paroles de ma bouche et ne t'en détourne pas. Ne l'abandonne pas et elle te gardera. Aime-la et elle te protégera. Je vous invite à prier. Éternel notre Père, nous voulons te remercier parce que même si encore ça nous arrive d'être incohérents, tu nous aimes et tu nous as tellement aimés que ça t'a coûté Jésus. Et si cet après-midi, il y a des personnes qui se reconnaissent dans ce manque de cohérence, Seigneur, entre ce que dit ta parole et nous, notre comportement derrière, eh ben, je te prie qu'ensemble, Seigneur, nous puissions reconnaître déjà cela, Seigneur, c'est le début. Et ensuite, qu'on puisse aussi se repentir, Seigneur, te demander pardon et changer de direction. Et on peut pas changer de direction sans toi, Seigneur. On peut lever la main, on peut faire ce qu'on veut, on peut dire des choses, mais si ça vient pas de toi, Seigneur, ça produira pas de fruits, Seigneur. Et encore cet après-midi, Seigneur, mon Dieu, je te prie, Seigneur, que chacun d'entre nous, Seigneur, puisse se laisser guider par ton Saint-Esprit, que ton Saint-Esprit puisse nous convaincre de péché, ton Saint-Esprit nous convainc de justice, Seigneur, nous transforme, Seigneur, et que, Seigneur, on ait à cœur de pas garder pour nous nos péchés, Seigneur, mais que vraiment on puisse partager avec nos frères et sœurs, qu'on puisse porter les fardeaux les uns des autres, Seigneur, qu'on puisse s'encourager. Et Seigneur, je te prie aussi pour que tu nous remplisses de toi, Seigneur, de ton amour, de ton Saint-Esprit, et que nous puissions demeurer en toi, Seigneur. Parce que, Seigneur, si on fait plein de choses, si on fait plein de services dans l'Église, mais à côté de ça, on passe pas du temps dans la prière, on passe pas du temps dans le jeûne, si on passe pas du temps dans la lecture de ta parole, Seigneur, on est encore des hashtags incohérents, Seigneur. Seigneur, viens au secours de notre incrédulité parce que nous avons besoin de toi. Saint-Esprit, convainc-nous encore de ta puissance, de ton autorité. Parce que c'est pas par notre propre puissance, c'est pas par notre propre force, mais tout ça va se faire par ton Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Amen.